On va s'éloigner un peu de la COVID, s'éloigner un peu du Québec, mais il reste que pas mal toute la planète va avoir les yeux rivés vers Washington au cours des premiers jours, parce que s'ouvre le deuxième procès en destitution de Donald Trump. Ça va donc se dérouler au cours des deux prochaines semaines. Alors, on va évidemment en discuter avec notre ami, collègue, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, l'excellent Raphaël Jacob. Salut Raphaël!
Salut monsieur!
Commençons par la défense de Donald Trump, parce que je lisais un peu là-dessus ce matin, puis je me disais, mon Dieu, ça fait quelques semaines déjà que, c'est dans l'air, Joe Biden est bien en poste, et une question aussi névralgique de que celle-ci, c'est-à-dire, est-ce qu'effectivement il peut être officiellement destitué, reconnu coupable, alors qu'il n'est plus président? Selon la Constitution, on se rend compte que non seulement on n'a pas encore la réponse, mais ça va être même au cœur, même de la défense de Donald Trump.
Présentement, c'est la ligne de défense principale de l'équipe Trump. Avant d'aller au-delà de est-ce qu'on devrait ou non destituer Donald Trump pour ce qu'il a fait ou le condamner, on essaie de poser la question suivante, est-ce que c'est même constitutionnel de le faire? Et comme tu soulignes toi-même, Joe, il n'y a aucun réel précédent, il n'y a rien qui est clair dans la Constitution. Le seul précédent, puis je le mets vraiment en guillemets, qu'on a, attachez vos tucs, là, ça remonte à 1876, OK? Et c'était pas le cas d'un président, c'était le cas d'un secrétaire, donc un membre du cabinet présidentiel qui avait été mis en accusation et dont qui avait été traîné au Sénat après coup pour son procès après avoir démissionné. Donc le type s'était fait prendre dans une histoire de pot de vin, avait démissionné et après coup, malgré tout, il y avait eu un procès en guillemets en destitution. Encore une fois, je le mets en guillemets parce que pour moi, destitution, ça implique que la personne a encore des fonctions. Or, le type en question n'en avait plus. On a quand même tenu un procès et il a été acquitté au final parce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher les deux tiers nécessaires là au Sénat à l'époque pour le destituer. Mais c'est le seul réel précédent qu'on a. Et donc, c'est vraiment pas évident de savoir aujourd'hui si c'est même constitutionnel de le faire. Ce qui semble clair, c'est qu'on va essayer, tout au moins, le procès va avoir lieu et va avoir lieu avant que la Cour suprême puisse même se pencher sur la constitutionnalité de la chose. Fait que, tu sais, c'est très spécial. On est vraiment dans le brouillard d'un point de vue, encore une fois, le juridique et constitutionnel. Là.
Mais ça mène à quoi tout ça, Raphaël? Parce que, tu sais, je regardais Joe Biden en entrevue en fin de semaine, son entrevue du Super Bowl à CBS. Je pense qu'il veut passer à d'autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains aussi qui aimeraient ça passer à autre chose. Puis ce que j'ai compris, c'est que l'issue de ça est un peu prévisible là, de ce procès-là. Ça mène à où tout ça? C'est quoi l'objectif de qui, de quoi dans ça?
la question est bonne. C'est-à-dire que ça dépend quand dans le temps tu regardes ça. C'est-à-dire que quand on a lancé le processus, ça fait quand même plusieurs semaines maintenant, l'issue n'était pas aussi prévisible qu'elle semble être aujourd'hui. Autrement dit, dans les jours là, qui ont suivi l'insurrection du 6 janvier dernier au Capitole, il y avait quand même un paquet de républicains là au Congrès qui semblaient au moins, là, je le dis de façon très conservatrice, là, au moins ouvert à la possibilité de voter pour condamner Donald Trump. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que au fil des semaines, l'espèce de récalcitrance là, qu'on a vu, écoutez, pendant 4 ans, d'une masse critique de républicains, de s'en prendre à Trump, puis surtout de risquer de s'antagoniser ses électeurs, ben c'est revenu au galop. Et donc, à ce stade-ci, effectivement, c'est plus le même calcul. Il y a un mois, on se disait, on va mener un procès en destitution parce qu'on croit vraiment qu'on peut réussir à le faire destituer. Ouais. Là, à ce stade-ci, je pense que l'objectif il est double pour les partisans de la tenue du procès. Le premier, c'est une question de principe, c'est-à-dire on peut juste pas, encore une fois, tolérer ce qui s'est passé. On peut pas ne pas au moins essayer de le sanctionner. Le deuxième est politique, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre, en bon français, là, sur le spot les sénateurs républicains qui sont coincés dans bien des cas, parce que, et ça aussi, ça renvoie à l'espèce de dynamique qu'on a vue pendant 4 ans. Dans le cas de la destitution de Donald Trump, c'est une majorité d'électeurs dans l'ensemble du pays, là, électeurs toute orientation politique confondue, là, c'est une majorité d'électeurs qui est pour la destitution, qui est pour qu'on vote pour condamner Trump. Mais de l'autre côté, c'est une nette majorité d'électeurs républicains qui est contre. Fait que si t'es un sénateur républicain, t'es coincé entre l'arbre et l'écorce, parce que d'un côté, la base de ton parti, le noyau dur dont t'as besoin, ne veut pas que tu votes pour la destitution, et en même temps, la majorité de l'électorat, elle, le veut. Fait qu'en forçant la tenue d'un vote, puis on force tous ces sénateurs républicains-là à se coincer un petit peu, à s'auto-coincer, à prendre un côté ou l'autre qui va assurément faire des mécontents. En anglais, on appelle ça du wedge politics. Donc, ouais, il y a quelque chose de stratégique là-dedans. Donc, t'as raison, ça ne change pas le fait qu'au final, on risque presque assurément d'avoir un acquittement de Trump, mais ça veut pas dire qu'il y a rien politiquement qui est accompli dans l'exercice de cette affaire-là.
Parlons un peu de la mécanique de l'exercice, parce qu'on dit souvent, dans le fond, c'est un procès, il y a des gens qui sont assermentés, il y a des accusations, etc. Mais il reste que dans un procès, selon le système de justice dans lequel vous êtes soit innocent jusqu'à preuve du contraire, mm-hmm, ou coupable jusqu'à preuve de votre innocence. Mais là, dans ce cas-ci, il n'y a pas cette obligation-là. Il y a quelque chose de très politique, c'est-à-dire, on a beau nous dire que c'est un procès, il reste que ça peut être uniquement des arguments politiques qui vont décider de la culpabilité ou non de la personne qui fait face à ce procès-là.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est juste pour t'illustrer à quel point les procès en destitution sont des actes, sont des exercices profondément politiques. L'an dernier, lors du premier procès, soit dit en passant, personnellement, je ne sais pas pour vous, là, j'en reviens toujours pas qu'on parle d'un deuxième procès en destitution pour le même président, là. Mais quand donc il y avait eu le premier procès il y a un an dans toute l'histoire là, de l'appel téléphonique au président ukrainien, là, Donald Trump avait eu un vote de culpabilité. Donc, il y avait eu un vote d'un sénateur républicain pour le condamner avec tous les démocrates. Et ça, là, dans l'histoire américaine, c'était la première fois qu'il y avait un sénateur du même parti du président qui votait pour le condamner. Tu sais, fait que ça vous donne une petite idée à quel point c'est intrinsèquement politique. Et cette fois-ci, donc, oui, on va présenter des arguments constitutionnels, des arguments légaux de part et d'autre, mais au final, c'est aussi beaucoup un argumentaire qui est politique et c'est surtout un verdict qui va être politique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que présumant qu'il est acquitté, OK? Je pense quand même qu'il y a très fort à parier qu'il va y avoir une majorité du Sénat qui va voter pour le condamner. Puis là, s'il y en a qui se disent « Wow, ça marche pas, c'est incohérent, comment c'est possible? » Ben, c'est très simple. C'est qu'au Sénat, comme je le disais brièvement tantôt, ça prend non pas une simple majorité, mais ce qu'on appelle une super majorité. C'est important de le répéter. Là, ça prend les deux tiers des sénateurs présents qui votent pour condamner le président pour qu'il soit reconnu coupable. Et donc là, on a 50 républicains, 50 démocrates. Présumant que les 50 démocrates votent pour la condamnation, personnellement, je m'attendrais cette fois-ci à ce qu'il y ait peut-être même plus qu'un sénateur républicain qui vote aussi avec les démocrates pour condamner Trump. Donc, disons qu'on en a une poignée. 2, 4, 5, quelque chose comme ça. Ben, ça va être historique parce que non, on n'arrivera pas évidemment à 67, là, qui serait le seuil minimal pour le condamner. Mais si on a 54 ou 55 sénateurs républicains sur 100 qui votent pour la condamnation, 55 sénateurs au total, pardon, qui votent pour la condamnation, ça va quand même être le plus grand nombre de votes de culpabilité contre un président de l'histoire américaine. Fait que, tu sais, non, Donald Trump n'aura peut-être pas le plus grand, guillemets, déshonneur là, qu'on peut réserver à un président ou dans ce cas-ci à un ex-président. Mais disons que la tâche à côté de sa présidence dans les livres d'histoire va être indélébile là, après ce processus-là. Donc, ça sert aussi à ça, ce qu'on fait cette semaine, ce qu'on commence à faire cette semaine.
On a-tu des nouvelles de Trump? Qu'est-ce qu'il fait?
Ben, tranquille.
Il joue-tu au golf? On le voit plus sur Twitter. Pas qu'on s'ennuie tant, mais en même temps, peut-être qu'on s'ennuie un peu de ses frasques et du côté divertissant.
Es-tu en train de me dire que ça te manque jamais le compte Twitter de Donald Trump?
Écoute, je vais être honnête avec toi, Raph. Là, j'essayais d'écouter l'entrevue de Nora O'Donnell avec Joe Biden hier soir dans le bulletin de CBS. Là. J'ai failli m'endormir. Là, honnête avec toi, là. Il parlait des écoles. C'était pas inintéressant, mais je vais te dire une chose. C'est pas du tout le même style de présidence, évidemment, mais Trump, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe avec lui?
Ben, il joue au golf, pour répondre à la première question. Ça, je te le confirme. Fait qu'au moins, je te dirais, une stabilité entre la présidence et l'ex-présidence Trump, puis continue à jouer au golf. Il y a de ça, mais de façon très sérieuse. Ce qu'il continue à faire, de ce qu'on en comprend, en coulisses, évidemment, parce que là, on s'entend, il est barré de partout. C'est pas juste qu'il n'y a plus de compte Twitter, il n'y a plus de compte de réseau social, point. No. Plus de YouTube, plus de Facebook, plus d'Instagram, il a été bloqué partout. Mais ce qu'il continue à avoir, ben c'est un compte téléphonique, un compte de téléphone. Et avec son téléphone, il appelle, de ce qu'on en comprend encore une fois, là, beaucoup d'élus républicains à Washington pour mettre de la pression pour ce qui est, disons, de la loyauté du caucus, des caucus républicains à la Chambre et au Sénat envers lui. Et là, ce que je veux dire, je vais vous donner un exemple très, très précis. Quand il y a eu la semaine dernière la possibilité que Liz Cheney, qui est la numéro 3 du caucus républicain à la Chambre, se fasse, si on veut, pas congédié, mais en fait, que se fasse démettre de ses fonctions de numéro 3 du caucus parce qu'elle avait voté pour l'impeachment de Trump. Mais Trump était au téléphone et mettait beaucoup de pression sur les collègues de Mme Cheney, donc sur les représentants républicains, pour qu'ils votent pour la démettre de ses fonctions, pour la punir, pour la sanctionner, de ne pas avoir été, en guillemets, assez loyal envers Donald Trump. Donc, il a encore les deux mains dans la pâte. Évidemment, pas autant qu'il y a à peine un mois, pas autant que s'il était encore, il pouvait encore être actif sur les réseaux sociaux. Mais clairement, c'est pas un président, un ex-président qui a complètement tourné la page, là. Il y a encore un intérêt très net à se maintenir, disons, dans, pas seulement les bonnes grâces, mais à maintenir un certain niveau d'influence sur ce parti-là à Washington puis à la grandeur du pays. Autrement dit, personnellement, ce que je vois là-dedans, c'est quelqu'un qui essaye présentement de garder ses options ouvertes pour peut-être le court puis le moyen terme. Là. Il y a ça aussi à voir.
Mais tu sais, bon, là, on parle du procès en destitution, mais est-ce que c'est le dernier des soucis de Trump? Bon, ça peut lui faire mal à son ego, mais il me semble, dans les derniers mois, souvent, il y en a qui disaient « Whoop, il va peut-être s'offrir le pardon parce qu'il pourrait faire face à des poursuites aux civils, même des poursuites aux criminels, puis le financier, puis les avoirs, puis les jeux de coulisses, puis l'influence. »
Les femmes, Joe. Les femmes.
Oui, les femmes. Mais est-ce que y a-tu des choses qui pendent au-dessus de la tête? Il pourrait-tu effectivement, où on est dans le patinage et tout ça?
Ben, écoute, il y a du patinage là-dedans dans la mesure où c'est sûr qu'il y a un petit peu de spéculation. On peut pas savoir exactement ce qui l'attend ou non au détour d'un point de vue civil ou criminel. Mais où je te rejoins à 100%, c'est le fait qu'il est, en bon français, exposé. Il y a des réel risque de faire face à des poursuites maintenant qu'il n'y a plus d'immunité présidentielle. Puis maintenant que, un petit peu comme on le suggérait il y a une seconde, c'est dans plusieurs dossiers différents où, disons qu'il il est dans une position peut-être un petit peu fâcheuse, là, dans la mesure où la question des femmes, on le répète, là, ce sont des dizaines de femmes avant le début de sa présidence qui l'ont accusé d'inconduite, puis dans certains cas carrément de crimes de nature sexuelle. Tu as la question des finances de toute son entreprise familiale dans plusieurs dossiers, notamment des dossiers immobiliers dans l'État de New York qui font jaser, je le dis de façon très conservatrice, là. Et évidemment, ben, tout ce qui s'est passé dans, surtout dans les derniers jours, les dernières semaines de sa présidence. Oui, la question de l'appel à l'insurrection, mais même avant ça, le fameux appel, là, au secrétaire d'État de la Géorgie, le responsable des élections en Géorgie, l'appel enregistré. Ouais. Écoutez, on s'en était parlé en ondes dans la semaine qui avait suivi. S'il n'y a pas matière, tout au moins potentiellement à poursuite criminelle là-dedans, je sais pas qu'est-ce que ça prend pour qu'on lance une poursuite aux États-Unis. Donc, au final, c'est très possible, effectivement, qu'il ait à faire face à la justice d'une façon ou d'une autre. Et effectivement, comparativement à un procès politique qui, écoute, dans le pire des cas pour lui, même s'il était condamné, ce qui semble encore une fois très improbable, mais même s'il était condamné, aurait comme pire conséquence de l'empêcher de revenir en politique active ou, disons, de le priver des services de protection des services secrets pour le restant de ses jours. Bon, comme conséquence, ça me semble assez mineur comparativement à ce qu'il pourrait avoir s'il était traîné devant la justice pénale et était reconnu coupable. Et ça aussi, c'est très particulier. On n'a pas vu une situation de la sorte depuis le départ de Richard Nixon de la Maison-Blanche, d'avoir un ex-président qui, de façon très sérieuse, très réelle, a des chances de, encore une fois, devoir rendre des comptes autres que des comptes politiques et constitutionnels.
Hey, je veux revenir vite sur Joe Biden. Partez pas les auditeurs. Là.
Je suis curieux.
Tu sais, je parlais tantôt, j'ai failli m'endormir en regardant son entrevue hier, Raph, là, mais je me disais, les démocrates, ils font quoi actuellement? Est-ce qu'ils vont accepter ça longtemps, un président démocrate qui suscite aussi peu d'enthousiasme, aussi peu d'émotion, aussi peu d'intérêt? Penses-tu que ça grenouille déjà peut-être un petit peu? Il est peut-être tôt encore, mais il y en a qui doivent commencer à dire hey, « on t'offre pas ça 4 ans, là, un président somnifère comme Joe Biden. »
Il y en a peut-être qui disent que c'est de ça que le pays avait besoin pour un petit bout aussi, par exemple.
Oui, mais il y a des démocrates qui veulent peut-être améliorer leur carrière. Il y en a qui vont crier un moment donné.
Oui, mais non, mais je trouve juste ça comique que tu sois en train de parler de ça alors que ça fait même pas un mois que le type est en fonction. Tu dis peut-être qu'une fatigue au bout de 2 ans et demi, 3 ans, là, ça fait 3 semaines qu'il est en fonction. Il y en a peut-être qui commencent à s'agiter parce que, tu sais, oui et non. C'est-à-dire que premièrement, il faut réaliser que contrairement, par exemple, au système parlementaire canadien, là, où un chef de parti techniquement peut être remplacé là à peu près n'importe quand, le président est élu pour 4 ans. Là. Fait qu'à moins qu'il quitte volontairement ou que évidemment quelque chose qu'on ne lui souhaite pas se produise, là, il est là pour 4 ans. Fait que même si ça grenouille, même s'il y en a qui le trouvent plate, ils sont pognés avec en bon français. Puis un petit peu comme Joe le disait lui-même, disons que au moment où on a eu à choisir un candidat en 2020, l'attrait de Joe Biden d'être, disons, une espèce de symbole de, en guillemets, de stabilité comparé à Trump, puis comparé, soit dit en passant, à d'autres candidats démocrates comme Bernie Sanders qu'on avait, c'est quelque chose qui était attrayant. Mais à quel point ça va durer, c'est une bonne question.
Parce que moi, je me mets à la place d'un démocrate, Raph, là, puis je me dis, si je veux pas que les républicains reprennent la Maison-Blanche, là, à la prochaine élection, il faut se réveiller là. Il faut trouver les nouveaux leaders, les nouvelles vedettes
démocrates aussi. Là, mais c'est quoi, Jérôme? Là-dessus, même là-dessus, les démocrates se sont un petit peu peinturés dans le coin en choisissant Kamala Harris comme candidate vice-présidentielle. Parce que si c'est pas Biden, on s'entend que c'est presque automatiquement elle. Et elle aussi vient avec son lot de problèmes politiques pour les démocrates. Fait qu'écoute, c'est un dossier dont on va se reparler, mais il n'y a pas de réponse facile présentement si t'es un démocrate, effectivement.
OK. La trame est partie un petit peu trop tôt. Il nous reste une minute pile avant la pause. Okay. Mais si on regarde les indicateurs au-delà du dynamisme du gars, la vaccination, la bourse, l'économie, depuis 3 semaines, ça se passe comment?
Puis là, tu me laisses moins d'une minute pour répondre à ça. On peut repartir le cue musical tout de suite, si vous voulez, tant qu'à faire dans la difficulté. Écoute, je vais te répondre de façon beaucoup plus simple, puis on s'en reparlera. Il est en train de prendre une orientation qui est très partisane. On le voit avec le plan d'aide économique, lié à la COVID, évidemment. La semaine dernière, il y avait une rencontre à huis clos qui s'est tirée sur plusieurs heures avec des sénateurs républicains qui se disaient ouverts à collaborer avec l'administration Biden. Suite à cette rencontre-là, lui a dit « Non, on va aller de l'avant, mais seulement avec des appuis démocrates. » Ça, c'est peut-être lourd de conséquences pour carrément le reste de sa présidence. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'était passé au début de la présidence Obama. Donc, tu vois, 60 secondes, il va falloir s'en reparler.
On va s'en reparler, Raph.
Salut, Raph.
Bye-bye. Salut.
J'appelle Jacob, notre expert en politique américaine. Là, c'est vrai. On fait la pause. On revient dans quelques minutes. Dans tous les moments.